Partir en expatriation et vouloir aider les autres. Faire face aux manifestations de son pays d'accueil. Continuer à développer son ONG alors qu'une psychose sanitaire et mondiale s'installe. Conversation à travers les fuseaux horaires avec Marie, fondatrice de Uplifters. Bonjour, je suis Adeline Verdier-Velten, fondatrice de The Musette, le premier média des expatpreneurs inspirés et inspirants à travers le monde. Je suis sûre que vous avez déjà eu l'idée de vous lancer en tant que bénévole pour une association. Marie vient en aide aux Helpers à Hong Kong. Elle nous explique comment elle a fait pour monter son projet, son ONG, les contraintes et comment on peut y participer, même de loin. Bonne écoute!
Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci de me retrouver pour le podcast des Musettes.
Avec grand plaisir.
Ravie de t'avoir. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que toi, tu vis à Hong Kong. Et voilà, si est-ce que tu pourrais nous rappeler quel est ton projet, parce que ce n'est pas commun. Et voilà, surtout d'avoir une association, ce n'est pas commun. Donc, dis-nous.
Alors, j'ai créé une ONG qui fait de la formation en ligne pour une population assez vulnérable en Asie du Sud-Est, qui sont les helpers, comme on les appelle ici, des Philippines et des Indonésiennes qui viennent travailler comme employés maison, comme domestiques, pour les familles plus aisées de Hong Kong, Singapour, Taïwan, le Japon, etc. Et donc, elles quittent leur famille, leurs enfants, pour se mettre au service d'autres familles et ainsi subvenir aux besoins financiers de leur famille dans leur pays d'origine.
Et qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans?
Alors, ce qu'on leur propose, c'est des formations pour apprendre à mieux gérer leur argent. Et c'est venu, en fait, du constat que c'est des femmes qui donnent énormément, qui font des sacrifices de vie incroyables et qui, pour autant, vont, à titre personnel, pas forcément s'en sortir, parce qu'elles sont soumises à une très grosse pression financière. Et c'était pile poil à la croisée de mes anciennes expériences professionnelles. En France, j'avais géré un centre de formation à distance, donc je savais vraiment comment marchait la formation en ligne, enfin ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et en arrivant en Asie, j'avais travaillé pour une ONG qui faisait de la formation en présentiel, donc des formations classiques, on va dire, dans des salles de classe, pour cette population, et justement sur ce thème-là d'apprendre à gérer ses revenus, d'apprendre à préparer l'avenir. Et donc j'avais vu l'impact que ces formations avaient, le fait que ça transformait leur vie, la vie de leur communauté, et j'avais envie d'utiliser mon expertise pour diffuser ces formations à plus de personnes.
Alors, donc, tu es partie de combien de personnes et, parce que là, ça va faire 2 ans, si je ne me trompe pas. Et là, tu as combien d'inscrits, on va dire?
Ça fait presque 2 ans en effet. Ça a commencé tout doucement avec un groupe Messenger et une dizaine de personnes, un petit blog fait rapidement sur WordPress. Et là, maintenant, on lance des sessions tous les mois. Et pour donner une idée, sur celle de février, on a déjà 250 inscrits. Et on lance des sessions comme ça tous les mois. Donc ça progresse bien. On a évidemment maintenant également une vraie plateforme de formation en ligne. Mais par rapport au début, ce qu'on a toujours gardé et qui est hyper important pour nous, c'est que tout se fait à travers les réseaux sociaux. Donc tout se fait à travers Facebook Messenger, parce que c'est ça le média qu'elle utilise au quotidien. Et on utilise en fait les anciennes élèves, ça pareil depuis le début. Les anciennes élèves vont aider les nouvelles. Donc c'est vraiment un projet qui est porté par la communauté.
D'accord. Et donc, ma question, c'est comment a réagi le marché professionnel à ton projet, enfin,
les autres organisations, le marché
ton projet?
Oui, le projet a été très bien accueilli. En fait, c'était les organisations qui aident déjà cette communauté se rendaient bien compte qu'il y a une vraie problématique pour les faire venir en fait aux formations. Ces femmes, elles ont très peu de jours de congé quand elles en ont, hein, parce que c'est le temps. Elles ont maximum un dimanche par mois, par semaine, pardon. Et certaines n'en ont qu'un par mois, voire pas du tout. Et donc le fait de pouvoir leur proposer des formations en ligne, ça correspondait à un vrai besoin.
Et Et alors, quelles ont été les différentes étapes dans le lancement? Parce que donc, tu as commencé un petit peu toute seule, mais après, tu t'es entourée, tu as rencontré des partenaires, des sponsors. Comment c'était? Les étapes du lancement de ton projet, c'est quoi?
Au début, c'était en effet moi toute seule avec les premières élèves. Et vraiment, j'insiste, elles ont et elles font toujours partie du noyau dur d'Uplifter. C'est avec elles que je fais grossir l'organisation. Petit à petit, j'ai trouvé des bénévoles qui m'ont aidée à faire grossir le projet. Et on travaillait vraiment de chez moi, de café. Voilà, petit à petit, on a réussi à avoir plus de soutien financier. D'abord par une campagne de crowdfunding, principalement autour de la famille, des proches, mais également des familles locales qui sont sensibles à la thématique. Et depuis peu, on a été soutenu par une fondation privée, ce qui nous permet clairement de passer une autre étape, de plus professionnaliser notre organisation, de commencer à pouvoir embaucher des gens. Et donc de pouvoir vraiment changer d'échelle, de pouvoir potentiellement en toucher des milliers, ce qui est mon objectif depuis le début.
Et c'est eux qui sont venus te chercher ou c'est toi qui as été les chercher?
C'est moi qui, enfin, c'est les deux. Disons que je faisais du networking pour savoir qui serait intéressé par mon projet. Et eux de leur côté également chercher des ONG qui pourraient correspondre à des projets qu'ils auraient envie de soutenir. Et on a été mis en relation par un club d'entrepreneurs. Donc complètement par hasard.
Super, dans les deux sens.
Ouais, tout à fait.
Et dis-moi, donc tu as rencontré forcément des obstacles?
Oui, je pense que les premiers obstacles sont liés en particulier au fait que ça a plein d'avantages de lancer une boîte dans un pays qui n'est pas le sien. Le désavantage, c'est que on ne connaît vraiment rien au marché local, entre guillemets, mais ne serait-ce que comment ça marche en fait. Quelles sont les étapes? Comment est-ce qu'on fait pour créer une ONG? Quels sont les points clés, etc. Et pour moi, au début, j'osais pas trop aller demander de l'aide. Je pense que ce qui a été vraiment clé dans la construction d'Uplifter, c'est de plus en plus se rendre compte qu'il fallait en permanence solliciter les gens, ne pas hésiter à demander de l'aide, demander des conseils, et à plusieurs personnes en fait, pas s'arrêter au premier conseil, mais en demander plusieurs, et que c'était comme ça, en croisant les différentes sources, qu'on arrivait à passer les étapes en fait. Ça n'a pas été si facile que ça. Donc, il y a vraiment été la structuration d'un point de vue légal, qui n'est pas si facile que ça à Hong Kong. Et après, l'autre grosse difficulté, hein, mais que toutes les ONG rencontrent, c'est le financement, enfin, que toutes les entreprises rencontrent, et je pense en particulier les ONG.
D'accord. Okay. Et donc, tu es sorti de ta zone de confort, quoi.
Ah ben alors, clairement, ça c'est quelque chose que je dis tout le temps, c'est que Uplifter, c'est Uplift, c'est censé, enfin c'est pour élever, pour aider les gens à grandir, mais alors la première personne qui a été uplifted, c'était clairement moi, et j'y suis allée presque en fait en me forçant, c'est-à-dire en mettant les étapes devant moi, en mettant des... Et du coup, j'avais plus le choix que de le faire. Par exemple, la campagne de crowdfunding, je l'avais annoncée dans les médias, je l'avais annoncée par email, mais j'arrivais j'avais pas passé le cap d'aller demander de l'argent en fait à mes proches. Et puis comme je l'avais annoncé partout, il a bien fallu que je le fasse. Et je me rappelle de mon mari 24 heures avant me disant, mais Marie, mais la page n'est toujours pas prête là, il faut que tu la mettes en ligne. Non, ce genre de choses.
D'accord, bah c'est bien, ça challenge.
Tout à fait.
Si tu avais un conseil à donner à des expatpreneurs en devenir.
Moi, mon conseil, ça a toujours été de se dire que c'était normal de ne pas tout savoir dès le début. Je pense que ça a été le frein que j'ai dû dépasser au départ, c'était de se dire, oh là, mais je ne sais pas tout. Par exemple, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour créer une ONG à Hong Kong. Donc, il faut que j'aie tout balisé avant de pouvoir me lancer. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on construit en avançant, qu'on découvre en marchant. C'est petit à petit en fait qu'on va avoir les réponses à ces questions et surtout qu'on aura les bonnes questions parce qu'on peut avoir au début se faire une montagne de quelque chose qui en fait est assez facile et pas du tout voir des difficultés qui vont pour le coup être compliquées à surmonter après.
Comment tu fais le succès pour toi? Tu peux me le définir selon toi?
Pardon?
Comment tu vois le succès? Pour toi, c'est quoi le succès?
Pour moi, le succès? Pour moi, le succès, c'est d'avoir des élèves qui me disent que notre formation, ça a changé leur vie.
Et ça t'a fait.
Et ça, c'est souvent. Et ça, c'est vraiment, mais enfin, il n'y a rien qui peut me rendre plus heureuse.
Est-ce que tu as une vision de ton projet à 3 ou 5 ans? Tu espères quoi?
Alors, ce que j'espère, c'est pouvoir vraiment stabiliser l'ONG d'un point de vue financier, c'est-à-dire que on soit sorti de ces trois premières années, 3-5 premières années, on va dire, de lancement, où c'est quand même toujours un petit peu compliqué et d'avoir suffisamment d'ancienneté, parce que c'est quand même beaucoup ça dans le monde des ONG pour pouvoir faire en sorte que les financeurs nous fassent confiance et donc de pouvoir garantir la pérennité de l'ONG. Et que donc, en parallèle de ça, on ait pu également vraiment pu démontrer la scalabilité de notre modèle et atteint beaucoup plus de ces femmes que ce qu'on a déjà fait.
Est-ce que tu as une collaboration avec eux? Voilà, tu aimerais collaborer avec je sais pas, une autre ONG ou alors une grosse entreprise pour que ça aille plus loin ou tu restes comme tu es?
On collabore déjà avec les autres ONG du secteur. C'est très important dans notre modèle. C'est que, par exemple, on a notre domaine d'expertise, mais on ne se prétend pas expert dans tous les autres sujets. Or, elles ont besoin d'aide sur plein de sujets. Enfin, ça peut aller de la santé à leurs droits, etc. Donc, moi, mon ambition, ça serait qu'on puisse également aider les autres ONG à mettre leur contenu en ligne et à toucher cette communauté en ligne. Et donc, du coup, de démultiplier notre impact ensemble, en fait.
Et je me posais la question, si des personnes extérieures comme moi, comme d'autres qui nous écoutent, voudraient aider ton ou s'impliquer, je ne sais pas, dans ton organisation, dans ton association, c'est possible.
Oui, c'est complètement possible. On a des bénévoles qui interviennent régulièrement sur des projets. En général, la façon dont ça se passe, c'est qu'on a la, donc il suffit de vous inscrire sur le site web. Donc on a une catégorie, on a une page du site qui s'appelle Volunteer et vous laissez vos coordonnées. Et en fait, ensuite, en fonction de votre profil, on sollicite les bénévoles sur les projets où on a besoin d'eux. Et ça, c'est pour les bénévoles, on va dire, plus à distance ou sur des projets. Et après, j'ai également encore une équipe de bénévoles qui viennent, donc c'est pour les gens basés à Hong Kong, qui viennent d'une façon régulière toutes les semaines. Et sur ça, on va dire, c'est plus sur des mini fiches de poste aménagées à un emploi du temps bénévole, mais sur une base plus régulière. Donc ça, c'est pour du bénévolat. Et puis après, la façon la plus efficace de nous soutenir pour toute ONG, toute ONG naissante, c'est vraiment de devenir donateur. Et en particulier de devenir un donateur mensuel, pas forcément avec un gros montant, mais de pouvoir compter de façon régulière sur une rentrée financière, ça change énormément les choses.
J'imagine que ça peut aider. Je voulais passer au côté expat. Qu'est-ce que tu penses du regard des autres sur le statut d'expatrié? Parce que voilà, que justement, il y a les helpers sur certaines régions, pas les expats. Donc, on a une vision de l'expatrié idyllique, je dirais. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça
Moi,
ou
je pense que ça a beaucoup changé en fait. Le statut d'expat en tant que tel, hein, d'un point de vue légal, il existe quand même quasiment plus. C'est-à-dire que la plupart des gens, ce sont des immigrés en fait. Hein. Je veux dire, la différence entre un expat et un immigré, c'est juste la façon dont on a envie de s'appeler à ce moment-là, qui sont en contrat local et qui sont venir vivre à Hong Kong ou ailleurs parce qu'ils avaient envie et qui ont même fait parfois la démarche d'eux-mêmes et qui n'ont pas été du tout amenés par une entreprise. Et à partir de là, je pense que la façon dont, en tous les cas, moi je vois ma génération et les plus jeunes vivent leur expatriation, c'est pas l'expatriation de façon un peu caricaturale, vit dans une cage dorée ou soyons honnêtes, hein, où c'est la femme d'expat qui vit tranquillement parce que son mari a un bon salaire et qui est garanti et qui vit là pendant 3 ans et qui va revenir en France. Et voilà, donc je pense que pour les personnes qui font un choix d'expatriation, c'est toujours aussi un moment de leur vie où on va être amené à se réinventer, à se réinventer un quotidien. Et ça, je le vois beaucoup autour de moi, en fait. C'est des périodes de vie très riches.
Bien sûr. Et alors, on va coller un petit peu à l'actualité. Alors, il y a deux choses qu'à Hong Kong, il y a pas si longtemps que ça, et encore maintenant, il y a eu un peu la révolution. Comment ça se passe là en ce moment pour toi?
Alors oui, ça a été une année riche, on va dire année scolaire depuis septembre même, depuis juin dernier. Il y a eu d'abord en effet les manifestations. Maintenant, il y a le coronavirus. La vie au quotidien a été très impactée. Pendant les manifestations, on était inquiet de savoir ce qui allait se passer et puis de ce qui allait advenir du statut un peu particulier de Hong Kong. Et puis maintenant, on est juste extrêmement impacté dans notre vie quotidienne avec des exemples très pratico-pratiques de les écoles sont fermées pendant 1 mois et demi, comment faites-vous? Voilà, donc c'est pas une année facile pour Hong Kong et beaucoup de business souffrent. Moi, j'ai la chance que mon ONG proposant ses services en ligne, on soit très peu impacté, mais c'est quand même pas du tout le cas des gens autour de moi.
Oui, tu ressens dans la ville, je sais pas, que ça
La
fait
vie
comme
est
en
bloquée.
Chine. Ah, la vie est
La
bloquée.
vie, c'est tout est très ralenti en tout cas. Les gens travaillent de chez eux, les transports en commun sont très vides, les restaurants sont évidemment tous très vides, et on sent que les gens font très attention. Donc, comme ça vient après encore une fois déjà des mois où la vie était ralentie, ça pose quand même des questions sur les perspectives économiques de la ville, de la région. À court terme.
Et toi, ton projet, ça ne te donne pas envie de rentrer parce que tu as envie de rester pour l'instant.
Moi, j'ai envie de rester. Mon projet, il est ici. Il est ici, il est dans la région en tout cas. Et puis, encore une fois, j'ai de la chance que mon projet soit pas directement impacté par ce qui se passe. Et j'aime beaucoup Hong Kong, donc je me dis que c'est juste quelques mois un peu difficiles à passer et que ça ira mieux après.
Ça va se solutionner. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des spécificités culturelles de Hong Kong?
C'est une ville qui est très melting pot. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'horizons différents. Et en ça, c'est très intéressant en fait. C'est qu'on a vraiment des amis qui viennent de partout, qui viennent de Chine, qui viennent de Hong Kong, qui viennent d'Europe, des États-Unis, d'Australie, Nouvelle-Zélande, vraiment d'un peu partout. Et je trouve qu'il y a également, du fait que c'est une ville de passage, une ouverture d'esprit, une ouverture à la rencontre. Qu'on a moins facilement en France, du fait que les gens, et c'est bien normal, ils sont avec leur groupe d'amis depuis longtemps et ils vont pas forcément être ouverts à rencontrer de nouvelles personnes. Ici, tout le monde est un peu de passage et donc, du coup, a envie de rencontrer des gens et du coup, une vraie richesse dans les échanges.
Bien sûr. Et quelle différence tu remarques, quelle différence culturelle, pardon, tu remarques par rapport, le plus gros point par rapport à la France qui t'a choqué en arrivant, je ne sais pas.
Je pense que y a des. Ça fait trop longtemps que je suis là, ça fait 5 ans, je les vois même plus. Non, il y a les points culturels. Il y a le concept de la face qui est très important en Asie, donc de la façon. On a tendance à être très très direct en France. C'est quelque chose qui ici peut être très mal perçu, donc la façon dont on s'adresse aux gens. Est différente. Et après, il y a des petites choses. Ça va être, par exemple, quand vous donnez une carte de visite, vous la donnez toujours avec les deux mains et vous recevez celle de votre interlocuteur avec les deux mains. C'est extrêmement important. Pareil, vous ne jetez pas négligemment dans votre sac. Vous la gardez bien à côté de vous, sur la table, en évidence. En fait, la carte de visite représente la personne et donc, ça serait très offensant de ne pas la traiter avec respect. Ça, c'est les petites choses. Dans les autres petites choses, c'est quand vous êtes invité chez des gens, vous enlevez toujours vos chaussures. En fait, maintenant, moi, ça me choque en France qu'on n'enlève pas toutes les chaussures nécessairement en rentrant chez les gens. Voilà, des petites choses culturelles comme ça.
Qu'est-ce que tu ramènerais de ton pays, donc de Hong Kong, en France? Que ce soit un objet et que ce soit au niveau entrepreneurial.
Un objet, j'aime bien toutes les céramiques chinoises et japonaises et le avant tout le tabouret chinois en céramique que j'ai acheté qui c'est tabouret pour se réchauffer l'hiver. Normalement, on met des braises en dessous.
Ah, ok.
Ah, ça c'est sûr, je dois ramener. Et de mon aventure entrepreneuriale, mais alors tellement de choses. Déjà, je pense que j'aurais du mal à la quitter, mon aventure entrepreneuriale. Donc, elle risque quand même clairement de revenir avec moi d'une façon ou d'une autre. Et il y a, sur le modèle de ce que j'ai construit en Hong Kong, plein de possibilités d'application en France ou ailleurs. Donc, je pense que ça va continuer d'une façon ou d'une autre.
Qu'est-ce qui te manque le plus de France?
Très sincèrement, aujourd'hui, à Hong Kong, il y a d'un point de vue nourriture, on va dire, tout ce qu'il y a en France. Donc ça ne peut pas me manquer. Ce qui me manque. Ouais, non, non, mais c'est incroyable. Hein. Il y a vraiment tout. Après, ça a un certain prix, mais il y a tout. Ça serait les réponses entre guillemets faciles, mais non, ça ne me manque pas vraiment. Non, ce qui me manque après, ça, on va dire, c'est l'autre réponse classique, hein, c'est la famille, les amis, pour le coup, qu'on voit moins. Alors qu'on essaye du coup de voir mieux, mais ça c'est la vie de tout expatrié.
Même après, les rendez-vous sont de qualité après.
C'est ça l'idée.
Alors, tu nous avais parlé dans le site, enfin dans l'article où je t'ai déjà interrogé, mais est-ce que tu peux nous rappeler ton mantra?
Oui, alors c'est mon mantra, c'est que j'ai adopté, c'est une citation de Gandhi, Be the change you wish to see in the world. Et de se dire que voilà, on peut tous faire quelque chose, ça ne sera pas forcément énorme, mais on a tous un rôle à jouer et que ça va bien de se plaindre, on peut passer à l'action aussi. Et c'est pas, ça ne sera pas forcément monumental, mais voilà, on peut faire tous quelque chose à notre portée.
Déjà, tu arrives pas mal du tout, hein, avec ton projet. Et pour terminer, est-ce que tu aurais quelques mots pour définir The Musette?
Bienveillant, ouvert, curieux et féminin.
Super. Merci beaucoup, Marie. Bon courage pour ton ONG et je suis sûre que, et j'espère surtout que beaucoup de gens vont venir t'aider d'une façon ou d'une autre. À bientôt.
Merci, merci, à bientôt.
Marie est un bel exemple de sortie de zone de confort. Et oui, organiser une campagne de crowdfunding, aller toquer à chaque porte, faire vivre son association pour venir en aide aux femmes les plus démunies qui se mettent au service des autres au prix de grands sacrifices. J'espère que vous avez aimé écouter notre petite conversation. Je vous rappelle que si vous souhaitez aider d'une façon ou d'une autre Marie et son ONG, allez sur son site uplifters-edu.org, rubrique Get Involved. Retrouverez son portrait aussi sur notre site www.themusette.com et partagez son podcast et mettez des étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts pour continuer à faire briller ses projets. À bientôt pour un prochain portrait d'expatpreneur.